Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir au Centre Sèvres pour cette soirée autour du livre de Daniel Hervieux-Léger, Le temps des moines, clôture et hospitalité. Je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Je dirai quelques mots d'introduction à l'ouvrage et puis nous commencerons notre soirée. Alors nous sommes très heureux d'accueillir Daniel Hervieux-Léger au Centre Sèvres, qu'elle connaît bien. Daniel Hervieux-Léger est sociologue des religions, spécialiste, si l'on peut dire, de la sécularisation et du catholicisme en France, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, dont elle a été la présidente. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et parmi les plus célèbres, encore récemment, Le pèlerin et le converti, même si c'est de 1999, donc ça même souvent réédité, et puis « Catholicisme, la fin d'un monde » en 2003. Vous êtes l'auteur aussi d'un important travail en collaboration, en particulier, pour le coup, très récemment, le Dictionnaire des faits religieux, en 2011. Et puis, vous avez une activité non seulement de recherche, mais de conférencière très importante. Alors, c'est pour nous vraiment une grande joie et un honneur de vous accueillir, de, en quelque sorte, rendre hommage à une pensée qui est toujours en mouvement et qui, je l'espère, en particulier dans cette maison, saura encore provoquer la réflexion non seulement des théologiens, mais des chrétiens en général. Je suis heureux d'accueillir également Céline Béraud. Céline Béraud est sociologue des religions, directrice d'études également à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes présidente de l'Association française des sciences des religions, des sciences sociales, des religions, voilà, il manquait un mot important, et puis auteur de nombreuses études, et en particulier d'un ouvrage remarqué, coécrit avec Philippe Portier, « Métamorphose catholique, acteurs, enjeux et mobilisation depuis le mariage pour tous », et qui est paru en 2015. Et puis un ouvrage également écrit en collaboration sur la religion en prison, mais vous animez également des travaux de recherche aux études sur genre et religion. Et à ma droite, Jean-Luc Poutier, que je suis heureux d'accueillir, encore qu'ici soit chez lui. Vous êtes historien, spécialiste du catholicisme contemporain et des rapports de l'Église et de la société, journaliste, enseignant à l'Institut catholique de Paris et au Centre Sèvres, et on peut le dire, vous prendrez la direction du département d'éthique publique à la rentrée. Et vous êtes également un membre du comité de la rédaction de la revue Études qui organise en parallèle une soirée. Donc vous voyez, nous n'avons pas peur de la concurrence. Voilà pour nos intervenants de ce soir. Autour de ce livre important de Daniel Hervieux-Léger, Le temps des moines, si déjà vos précédents ouvrages, Daniel Hervieux-Léger nous avait convaincus, en particulier avec Le pèlerin et converti, par ses éclairages sur la situation contemporaine du christianisme, et même si certains esprits chagrins avaient pu s'offusquer de la thèse de catholicisme, la fin d'un monde, de cette thèse de l'exculturation du christianisme de nos sociétés, c'est-à-dire sa sortie de la culture contemporaine, vos livres et vos travaux nous avaient convaincus. Le diagnostic de l'exculturation n'était pas une condamnation, mais l'analyse d'une situation qui définit le travail propre du sociologue. Alors en voyant le titre de ce livre, Le temps des moines et son terrain d'enquête, terrain historique et terrain contemporain, mais terrain qui s'intéresse au fond au renouvellement au XIXe siècle ou à la refondation du monachisme en France, on pouvait s'étonner et se demander si vous aussi vous étiez subitement pris d'un désir de vous retirer du monde, comme vous l'analysez dans le chapitre 7, et de vous blottir derrière la clôture, mais il n'en est rien, bien au contraire. Vous choisissez la vie monastique comme un prisme d'observation de la trajectoire du christianisme en modernité et au fond sur deux siècles. L'enquête est limitée, seulement 700 pages, sur la vie monastique en France, la vie monastique masculine même, on peut dire, strictement masculine, et en s'intéressant précisément à cette mise en place de la vie monastique en France au XIXe siècle, jusque dans ses évolutions les plus contrastées aujourd'hui. Et au cœur de l'ouvrage, il m'a semblé que vous repreniez une notion clé de la sociologie religieuse, cette utopie, cher à Jean Segui, que vous retravaillez ici à travers la vie monastique française. Et on va suivre progressivement, à partir de trois modèles incarnés en trois lieux, Solesmes, la Pierre-Tivire, le Bec-et-Loing et leurs fondateurs respectifs, on va pouvoir observer au fond la diversité des relations qui se sont nouées et qui continuent de se nouer avec le monde, relations de l'Église et de la société à travers la vie monastique. Et en ce sens-là, on pourrait dire que le monachisme est vraiment le poste d'observation des relations Église et société, à travers les relations que le monachisme noue, mais comme révélateur aussi des relations qui se nouent plus largement entre Église et société. Et c'est vraiment très, très étonnant de voir comment des notions comme l'ascèse, la liturgie peuvent devenir éclairantes, quoi, des pratiques plutôt, comme l'ascèse et la liturgie peuvent véritablement devenir éclairantes sur la société et le christianisme dans la société contemporaine. Alors, j'allais dire, autant ça peut sembler aller de soi si l'on analyse les modèles de gouvernement d'un monastère. Au fond, faire une théologie ou plutôt d'observer sociologiquement comment se met en œuvre le gouvernement de la vie monastique. Il est vraiment passionnant, en tout cas pour moi ça l'a été, de lire comment la liturgie, l'ascèse, peuvent également devenir une véritable puissance d'analyse et de lecture de la société et des effets sociaux. Pour le dire d'un mot, pour donner un seul exemple, quand on voit comment vous reprenez cette hiérarchie dans l'ascèse entre le corps et l'âme, et que vous en concluez que c'est cette hiérarchisation, ce dualisme, qui a pu rendre possible l'irruption imaginaire du temps du royaume dans le temps du monde, c'est-à-dire comment cela a rendu possible, dans des configurations historiques données, ces utopies qui sont portées par la vie monastique. Donc, j'allais dire, c'est vraiment, vous nous entraînez dans non seulement, et on va en parler dans un instant, dans une histoire, mais ce n'est pas une histoire, c'est vraiment une sociologie, c'est-à-dire une analyse des rapports sociaux, de la manière dont, on pourrait dire, la vie monastique a des effets sociaux, et ça me faisait penser au titre, alors on est dans la salle qui s'appelle Henri de Lubac, « Catholicisme, les aspects sociaux du dogme », on pourrait dire « Monachisme, les effets sociaux de la vie monastique » dans votre livre. Et petit à petit, on s'approche de la culture contemporaine, où au fond, loin d'être ce que le monachisme a voulu être, au XIXe siècle en particulier, comme contre-société, le rapport avec la culture contemporaine est peut-être aujourd'hui davantage paradoxal. Le monachisme ne représente plus une aspiration à sortir du monde, une aspiration qui l'oppose au monde, mais le monachisme serait la figure, sans doute de manière décalée, d'une manière d'habiter le monde adéquate à l'aspiration évangélique. Et ce décalage, vous le suggérez vous-même, pourrait être interprété théologiquement, et là vous faites allusion, quoi, plus qu'allusion à la notion de style de Christophe Théobald, c'est ce décalage qui va créer aujourd'hui aussi des effets sociaux. Et alors il m'a semblé, en vous lisant, qu'un nouveau terrain commun apparaissait entre christianisme et culture contemporaine, comme si l'exculturation du christianisme prenait un autre tour ici dans le monachisme, ou comme s'il y avait une possible réinscription culturelle du christianisme par le monachisme dans la culture contemporaine, une réinscription modeste, retirée mais hospitalière, où la respiration du temps qui est proposée par la vie monastique, la frugalité, la mesure, l'écologie, au fond, au cœur de la vie monastique contemporaine, recoupée et relancée des idéaux contemporains post-chrétiens. En tout cas, ce livre qui est rigoureux, ça, on vous connaît, clair, on vous connaît aussi, enthousiaste, je connaissais moins, ne manquera pas d'interroger. En tout cas, il m'a convaincu et vraiment je suis heureux qu'on puisse présenter ce soir au Centre Sèvres cet ouvrage, où on respire aussi un certain bonheur de l'enquête sociologique et des rencontres que vous avez pu nouer pendant cette enquête. Alors, je donne tout de suite la parole à Jean-Luc Poutier pour sa réaction à ce livre.
Merci. Merci beaucoup, Père, de m'avoir convié à cette soirée pour parler d'un aussi beau et important ouvrage. Alors, je commencerai par une confidence qui, j'espère, ne sera pas mal reçue, mais comme lecteur, je préfère le récit historique à l'analyse sociologique. Alors, je le dis bien comme lecteur, ça ne préjuge en rien des méthodes et de l'importance de chacune des disciplines. Et je dois dire que, comme amateur d'histoire, eh bien, votre livre nous comble, c'est un régal. C'est un régal parce que vous traitez sur une période de deux siècles autant l'analyse interne d'une façon de vivre communautaire dans les monastères qui est celle des moines que d'une évolution générale du christianisme catholique, même si un chapitre est consacré aux ouvertures œcuméniques, de l'histoire du christianisme catholique pendant toute cette période. Alors, je retiendrai chronologiquement, excusez-moi, trois points, et puis je vais continuer à être mal élevé, mais je vais commencer par parler de moi, ce qui ne se fait pas quand on est là pour parler du livre d'un autre auteur. Mais il y a fort longtemps, j'avais rédigé une thèse de troisième cycle à l'époque avec Monsieur Jean-Marie Mayer, hélas disparu aujourd'hui, sur la démocratie chrétienne et au XXe siècle, sur un segment de l'histoire de la démocratie chrétienne au XXe siècle. Et à l'époque, il existait une approche que nous dirions aujourd'hui indépassable de l'histoire du catholicisme depuis la fin du XIXe siècle, c'était la succession d'une triade catholicisme intransigeant, catholicisme social, démocratie chrétienne. C'était le fruit de la recherche d'Émile Poulat, de Jean-Marie Mayer. Alors, en bon élève, j'ai appliqué cette grille d'analyse à la démocratie chrétienne du XXe siècle. Puis les années ont passé. Et puis, comme c'est souvent le cas en histoire, vous étudiez une période et pour essayer de mieux la comprendre, vous remontez à la période antérieure. Et donc, pour des cours que j'ai eu à donner ici ou à Sciences Po, j'ai été amené à reprendre l'histoire du catholicisme au XIXe siècle. Et très franchement, même si il existe sur cette période des travaux que vous citez, qui sont très, très remarquables, qu'il s'agisse de Philippe Boutry, de Claude Langlois, de Claude Prudhomme et d'autres, il était très difficile, à la lumière de cette grille d'analyse qui nous avait été donnée dans les années 1970, de comprendre ce qui s'est passé au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'ont voulu faire ceux qui, après la tourmente révolutionnaire, ont cherché, alors convient-il de dire restaurer, reconquérir, réinstaller une société chrétienne? Et en cette matière, il est très difficile d'éviter les anachronismes. Lire avec des étudiants l'encyclique Mirari Vos de Grégoire XVI, c'est s'exposer à des ricanements, tant l'outrance du propos apparaît aujourd'hui presque absurde. Or, Grégoire XVI n'était pas quelqu'un d'absurde et de stupide, et donc son propos correspondait bien à un projet, à une intention. Et il est très, enfin, dans toutes les lectures que j'ai pu faire, il m'est toujours apparu difficile de reconstituer, de reconstruire cette intention. Or là, à travers les figures de trois refondateurs du monachisme français au XIXe siècle, que vient d'évoquer le père Goujon, vous nous permettez d'entrer dans ce qui a été le socle de ce que, politiquement, ensuite, les historiens ont appelé le catholicisme intransigeant. Moi, je préfère, je crois d'ailleurs vous en avoir entendu débattre un jour avec Jean-Marie Donnegani, l'expression de catholicisme intégral ou intégralisme plutôt que de catholicisme intransigeant. Et qu'est-ce que c'est que ce socle? C'est un projet de société, alors qui n'est pas une société globale, l'ensemble de la société, mais qui, à travers la reconstruction, le redémarrage d'un certain nombre de lieux de vie communautaire et de prière va proposer une utopie qui est une théologie politique qui sera ensuite versée vers la société pour essayer de voir comment, face au progrès des idées modernes, face au combat que un certain nombre d'héritiers de la Révolution mènent contre l'Église, contre le cléricalisme, eh bien, il est possible de proposer autre chose que le projet révolutionnaire, dans sa version, je schématise outrancièrement, dans sa version libérale ou socialiste, qui sont rejetés aussi bien l'une que l'autre, l'un que l'autre, comme de toute façon les fruits de la même école de pensée. Et donc, à travers ce parcours dans la refondation des monastères de Solesmes, du Bec-Téloin, de la Pierre qui vire, enfin la Pierre qui vire c'est plus une création qu'une refondation, au XIXe siècle, vous nous faites entrer par un récit magnifique et convaincant dans la compréhension de ce qu'a été je ne connais pas de terme qui convienne vraiment, mais appelons-le ce renouveau ou cette renaissance religieuse du XIXe siècle, qui est très importante parce que aujourd'hui, alors ça je l'ai vérifié plus comme journaliste que comme historien, quand vous êtes face à des personnes qui portent des critiques parfois violentes contre ce qu'a été l'Église de l'après-Deuxième Guerre mondiale, l'Église qu'elle dénonce, c'est l'Église du XIXe siècle. C'est pas l'Église de l'après-concile, cette image que va donner l'Église du Second Empire ou de la période d'avènement du régime républicain, elle va rester très longtemps et elle sera dénoncée par ses adversaires pendant des décennies et parfois, il suffit de lire Michel Onfray, aujourd'hui par certains auteurs encore. Alors la prise en compte, je ne veux pas répéter ce qu'a dit le père Goujon, mais de cette dimension d'utopie, bon, qui avait bien été entrevue dans les manuels que nous lisions étudiants, hein, les travaux de Jean-Baptiste Durosel sur la première démocratie chrétienne en 1848, Pierre Leroux, cette dimension d'utopie à travers le cas précis de la communauté monastique et donc de projets de société, moi, m'a particulièrement intéressé et éclairé sur ce qu'a été l'histoire du christianisme du christianisme catholique pendant cette période. Je voudrais m'arrêter maintenant sur un deuxième point qui est peut-être moins développé dans votre livre, mais qui me semble également important pour quiconque cherche à aller au-delà de ce qui a été apporté par les travaux historiques nombreux sur tous ces sujets depuis une cinquantaine d'années, pour essayer de mieux comprendre comment le processus de sécularisation de la société s'est accéléré à ce point en Europe et en particulier en France dans les deuxième et troisième tiers du XXe siècle. Alors, est-ce qu'il faut expliquer qu'il existe sur ce plan une exception européenne ou pas d'exception européenne? Enfin, je vous ai lu à ce sujet avec Les Daly ou Peter Berger dans des colloques où vous en avez longuement discuté. Mais en tout cas, cette sécularisation qui aujourd'hui s'est généralisée dans la société et qui est sans doute appelée à se poursuivre et à continuer, à quel moment remonte-t-elle? Et alors, vous avez une page sur la fin de la Première Guerre mondiale où vous évoquez le fait que la participation des moines à la guerre, au fond, les a amenés à s'intégrer à la République, en tout cas au régime républicain, à oublier ce qu'avait été le projet, nous pourrions dire aujourd'hui, de contre-société ou d'utopie du XIXe siècle, et à chercher d'autres orientations à l'utilité de leur écart par rapport à la société pour justifier malgré tout leur appartenance à celle-ci. Et alors, ça m'a renvoyé aux travaux d'un autre historien, Guillaume Cuchet, qui a travaillé, lui, sur le purgatoire au XIXe siècle et qui a montré comment il existait au XIXe siècle un engouement extraordinaire pour les âmes du purgatoire. La dévotion aux âmes du purgatoire est dans le catholicisme est un des phénomènes majeurs du XIXe siècle. Et alors la fin un peu abrupte de la thèse de Guillaume Cuchet montre que en 1919-1920 tout ça s'arrête. D'un coup, les âmes du purgatoire n'intéressent plus personne. Alors pourquoi les moines finalement oublient leur utopie, les catholiques fervents ne prient plus pour les âmes du purgatoire. Il y a bien des raisons, si vous voulez, parce que si l'on se réfère par exemple à la lettre du cardinal Mercier à Noël 1914, dans laquelle il répond aux demandes qui lui ont été faites de savoir si les soldats de la guerre sont des martyrs et donc seront immédiatement des saints, le cardinal Mercier, par rapport à ce qui s'est passé en Belgique, c'est l'archevêque de Malines, répond oui. Mais il aura des contradicteurs du côté français. Et l'idée que tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille ne soient pas morts en martyrs a sans doute, mais ça resterait à montrer, a sans doute commencé à éloigner, à accentuer l'éloignement de l'Église de la part d'une population qui ne comprenait plus ce qui s'était passé et quels étaient les enjeux ou quelle était, pour employer une formule un peu pédante, l'économie du salut qui était proposée à ce moment-là. Et il me semble que dans ce que vous montrez ensuite de l'évolution de la pratique monastique, cette économie du salut, elle se modifie sérieusement. Parce que la question est aujourd'hui posée, est-ce qu'il est pertinent de poser la question de savoir si dans la foi, tel ou tel va être sauvé, ou si ça n'a plus aucun intérêt ? Et il me semble que cette question s'est accentuée à partir des années 1920, mais ce ne sont que des hypothèses, vous me direz si je me trompe complètement, mais il me semble que cette question s'est accentuée à partir des années 1920 et qu'à la théologie du salut, qui avait été prédominante pendant tout le 19e siècle, et dont Guillaume Cuchet montre bien toutes les dévotions qu'elle avait pu entraîner, se substitue une théologie du royaume que vous évoquiez tout à l'heure et dont certains théologiens vont faire la pierre d'angle de leur réflexion théologique, même parmi ceux qui, hélas, disparaîtront prématurément. Je pense en particulier au père Yves de Moncheuil, qui apportera sur ce plan des lumières tout à fait intéressantes. Et donc ce glissement d'une théologie du salut vers une théologie du royaume a-t-il ou pas contribué à l'accentuation du processus de sécularisation ? Voilà, c'est une hypothèse que j'évoque, que je pose, mais encore une fois, je peux complètement me tromper. Et puis le troisième temps, encore deux minutes, sur ce que je voudrais évoquer, c'est aujourd'hui. Alors, bon, je saute sur beaucoup de chapitres absolument passionnants, dont l'un sur le mouvement liturgique, qui est, je me permets de le dire sans flagornerie, vraiment remarquable, parce que pour tous ceux qui ont un peu touché à cela, la liturgie c'est extrêmement technique et ça peut être assez ennuyeux. Et le chapitre que vous consacrez à ce sujet se lit comme un livre d'histoire, là aussi, je ne veux pas dire comme un roman, se lit comme un livre d'histoire et il apprend énormément. Il apprend énormément, y compris sur ce fait un peu paradoxal qui est que lors de la première réception du Concile, le blocage s'est fait d'abord sur la liturgie, immédiatement sur la liturgie, alors que au Concile, la constitution sur la liturgie est celle qui avait été adoptée le plus facilement, pas immédiatement, à la fin de 1963, mais c'est celle qui avait été adoptée sans poser vraiment de difficultés. Et c'est sur cette question, enfin, Monsieur Pelletier est ici et il connaît ça beaucoup mieux que nous tous, c'est sur cette question que les premiers achoppements vont se produire tout de suite après la publication du missel de Paul VI en 1967, étant un des prodromes de la future crise catholique française. Alors, je passe sur ces différents chapitres pour en venir à la période actuelle. Et là aussi, vous m'avez permis, et je pense que vous nous permettez à toutes et à tous, de mieux comprendre le développement, alors, d'une évolution que vous avez longuement étudiée dans un de vos livres les plus importants, tous sont importants, mais enfin celui-là en particulier, La religion pour mémoire. Et moi je reprendrai une expression de quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui est Peter Berger, qui parlait de l'impératif hérétique. Hérétique, hérésis au sens de choix, hein, pas au sens de dissociation d'un courant orthodoxe. Bon. Peter Berger montrait comment la sécularisation avait entraîné une forme de vide dans lequel chacune et chacun d'entre nous était contraint de choisir. Et dans ce vide de choisir, de croire ou de ne pas croire, et en croyant de privilégier telle option ou telle autre option. Et donc, la sécularisation, c'était un peu ce qu'un sociologue, Gilles Lipovetsky, appelait l'ère du vide. Et ce vide, à un moment ou à un autre, il doit être rempli. Alors là, vous nous montrez qu'aujourd'hui, l'orientation vers la vie monacale d'un certain nombre de jeunes gens, puisque c'est essentiellement les jeunes gens que vous étudiez, se fait selon ces modalités que vous avez également décrites dans Le Pèlerin et le Converti. Et la question qui se pose, elle est de savoir quelle est la valeur de l'engagement qui est pris alors. À quoi cela correspond aujourd'hui de se mettre en retrait de la société pour tenter une expérience, mais qui apparaît un peu comme une expérience, voilà, non pas dictée par une aspiration au transcendant ou une aspiration vers le surnaturel telle qu'elle pouvait l'être jadis, mais à combler les vides de l'existence banale qui est menée dans la vie quotidienne. Et j'avais été très frappé à ce sujet par des rencontres que j'avais faites avec des moines de la Pierre qui vire. Alors c'était pour parler à l'époque des éditions Zodiac, hein, puisque la Pierre qui vire a été l'éditeur pendant de nombreuses années des éditions Zodiac. Et certains moines de la Pierre qui vire n'avaient pas vraiment envie de parler des livres, mais de leur chagrin, je le traduis comme cela, de voir que beaucoup de jeunes moines qui les avaient rejoints partaient au bout de 5-6 ans pour d'autres expériences, d'autres formes, et sans que cela semble leur poser de problèmes ou de difficultés insurmontables. Ils s'éloignaient. Ils étaient venus, ils avaient été des membres actifs et aimés de la communauté. Et puis un jour, c'était fini. Et donc, la question qui transparaît avant votre magnifique conclusion sur les moines de Tibérine et Christian de Chergé, où là, dans son testament, on retrouve pour le coup une véritable économie du salut. Mais la question qui se pose, c'est effectivement de savoir comment, à travers ces différentes approches sociologiques, l'impératif hérétique, le pèlerin et le converti, comment l'engagement monastique aujourd'hui peut s'inscrire, comme c'était le cas dans le passé, dans la durée, ou est-ce que c'est un passage, et peut-être que ce qui, en dehors de la question démographique, menace le plus cette institution dans le temps présent, c'est le fait qu'elle soit considérée parfois comme un passage et non plus par comme un engagement définitif. Voilà quels étaient les trois moments qui m'ont beaucoup frappé dans votre ouvrage. Encore une fois, je ne sais pas s'il faut dire restauration ou reconquête ou recréation au XIXe siècle, la période de la guerre, et puis aujourd'hui cette question de l'entrée dans la vie religieuse, de l'entrée au monastère, avec ce point d'interrogation qui surplombe ce type de vocation sur sa durée et sur sa nature même par rapport à ce qu'il en était jadis.
Merci beaucoup Jean-Luc Poutier de cette lecture et de ces questions. Alors ce que je vous propose, c'est de donner maintenant la parole à Céline Béraud, et puis nous laisserons le temps ensuite largement à Madame Hervieux-Léger de répondre, de reprendre. Donc, finalement, moi j'ai eu une lecture intéressée par le regard théologique, mon voisin comme historien. Ben, c'est un livre de sociologie, alors on va demander à une sociologue quand même ce qu'elle en pense. Voilà, Céline Béraud, s'il vous plaît.
Bonjour, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre invitation à venir discuter donc le livre de Daniel Hervieux-Léger, même si, il faut bien le dire, l'exercice relève quand même un petit peu de la gageure. Alors, je vais m'intéresser à une entrée qui est importante dans le livre, mais d'autres le sont tout autant. C'est une entrée qui m'intéresse depuis mes premiers travaux, mes travaux de thèse que j'ai fait d'ailleurs sous la direction de Daniel, qui est la question du changement social et du changement religieux. Et c'est vraiment un des fils, alors il y en a, on peut tirer plusieurs fils hein, de cet ouvrage, mais un des fils qu'on peut tirer, me semble-t-il, est celui qui tourne autour de cette réflexion autour du changement social et du changement religieux. Et cette réflexion que nous propose Daniel Hervieux-Léger, elle repose sur une double hypothèse, deux hypothèses qui sont très largement contre-intuitives. Hein. La première hypothèse, c'est que le monde monastique est travaillé par le changement. Il n'échappe pas au changement social. Ce n'est pas un monde immuable, hors du temps de l'histoire. Et deuxième hypothèse, non seulement ce lieu est travaillé par le changement, mais c'est une scène, c'est le terme qu'emploie Daniel, hein, la scène monastique est une scène particulièrement bien choisie pour observer les transformations qui travaillent le catholicisme français, hein, pour être plus précise, dans son ensemble. Voilà, donc c'est ces deux hypothèses que j'aimerais un peu déplier devant vous. Et ensuite, je tenterai malgré tout peut-être quelques éléments de discussion. Donc revenons sur la première hypothèse, hein, cette idée que le monde monastique n'est pas un monde immuable. Hein, c'est des représentations qu'on a tous et toutes, hein, liées à un imaginaire médiéval que, comme le rappelle Daniel, les fondateurs du XIXe siècle, comme Guéranger ou Muard, ont très largement cultivé en s'inscrivant justement dans une continuité hein, dont finalement le moment révolutionnaire n'aurait été qu'une sorte de parenthèse. Jean-Luc Poutier l'a dit, a évoqué ce moment en particulier, donc je n'irai pas beaucoup plus loin, mais ce qui est la force hein, de la démonstration de Daniel, hein, au-delà du travail historique qu'elle donne à voir, c'est de montrer que ces hommes sont des fondateurs, des inventeurs, bien plus que des refondateurs. Et ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose qu'on voit à d'autres moments, hein, des grands changements institutionnels dans l'Église, où on parle de refondation, de restauration, pour donner l'impression toujours de s'inscrire dans cette continuité. Moi qui ai travaillé sur le diaconat, hein, le diaconat permanent, tel qu'il est restauré par le Concile de Vatican II, hein, c'est le terme de restauration, mais dans les faits, c'est un ministère qui s'invente très très largement, hein, et qui continue d'ailleurs encore à s'inventer. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette hypothèse travaille. Alors, on pourrait prendre énormément d'exemples. Je vais en prendre que quelques-uns devant vous. Parmi ceux qui m'ont peut-être le plus intéressé, c'est notamment la question de l'autorité hein, et du rapport à la figure du père abbé. Ça, c'est, je trouve, quelque chose d'extrêmement intéressant quand Daniel explique, notamment à travers les récits de vie hein, qu'elle a recueilli, parce qu'il y a un travail de terrain, un travail ethnographique, à la fois de récits de vie, de recueil de récits de vie de moines de générations différentes, et également un travail d'observation ethnographique extrêmement riche. Et ce que donne à voir ces différences générationnelles, c'est qu'on passe, hein, d'une autorité qui était pyramidale, verticale, descendante, hiérarchique, exclusive, hein, jusqu'aux années 50-60, à une nouvelle façon d'exercer l'autorité, hein, et qui est beaucoup plus coopérative, relationnelle. Hein, on met en avant les pratiques de la collégialité. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent on relie ce type de phénomène qu'on voit ailleurs dans le catholicisme, dans les relations aux évêques, par exemple. Hein, c'est là aussi le développement des pratiques collégiales, alors qu'on voit se développer peut-être un peu plus tard, au moment des synodes, hein, qui expérimentent beaucoup de diocèses dans les années 80-90. Souvent on le lie à la culture démocratique, c'est-à-dire c'est l'extension de la culture démocratique qui finalement atteindrait aussi les moines eux-mêmes. Alors Daniel ne nie pas du tout ce processus-là, sur lequel d'ailleurs elle avait déjà écrit, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle montre comment finalement ce qui transforme la figure du père abbé, c'est les reconfigurations dans la famille contemporaine. C'est les mutations du modèle familial, hein, qui vont changer aussi non seulement le rapport au père abbé, mais aussi la façon dont le père abbé pense le rapport à ses frères. Et là aussi, c'est extrêmement contre-intuitif, parce que les moines ne sont pas censés fonder de famille, hein, et pour autant, hein, ils n'échappent pas non plus à la révolution culturelle anthropologique, hein, qui a travaillé la famille pour en faire un lieu relationnel, un lieu d'affinité élective, beaucoup moins hiérarchique, hein, et beaucoup plus vertical. Donc là, il y a là quelque chose de tout à fait saisissant et qui fonctionne parfaitement. De la même façon, et là aussi, c'est une thématique que moi j'avais pu travailler sur la vocation. Alors moi, c'était sur la vocation des presbytérales, mais dans le cas ici de la vocation monastique, hein, Daniel montre bien comment finalement cette vocation est aussi travaillée par l'idéal d'accomplissement de soi, par la thématique du bonheur, et que pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit aussi une réalisation donc des potentialités de chaque individu, ce qui bien évidemment la fragilise, hein, ce qui la rend de ce fait beaucoup plus fragile. Ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement... alors, un autre exemple qu'il faut donner, qui a été cité un peu par Jean-Luc Poutil, hein, c'est l'ascèse aussi, hein, la façon dont est vécue l'ascèse, qui, nous dit Daniel Herbe-Léger, est cette modalité concrète dans laquelle le monachisme se construit comme forme de vie. Hein. Et là aussi, hein, l'ascèse se transforme avec à nouveau le même tournant des années 50-60, hein, où on passe d'un idéal de l'ascèse à un autre, avec un déplacement des pratiques qui nous est donné à voir. L'exemple qui est très finement étudié, hein, est celui de la pratique du jeûne, hein, qui est donc une pratique traditionnelle, hein, constitutive de l'état de vie monastique, et qui va se transformer dans un rapport autre, alternatif à la nourriture et à l'alimentation, hein, dont notamment les thématiques de la frugalité, mais aussi qui vont nourrir un rapport à l'écologie, hein, et aux pratiques de production agricole écologique. Ce qui est intéressant aussi dans cette affaire de changement, c'est que l'Église ne fait pas que, le monachisme ne fait pas que subir le changement. C'est aussi un lieu moteur de changement. Et là aussi, c'est extrêmement intéressant de voir comment toute une série de dossiers dont on imaginerait plutôt, a priori, qu'ils se sont d'abord déployés ailleurs que dans le monde monastique, voient des expérimentations premières, que ce soit la réforme liturgique, hein, bien avant, hein, qu'elle soit mise en œuvre par le Concile de Vatican II, le terrain de l'écuménisme, hein, et aussi celui des relations interreligieuses. Donc, vous voyez, c'est un rapport au changement qui est aussi un lieu d'innovation, hein, avant que ces pratiques liturgiques, ces conceptions ecclésiologiques ne se généralisent, et que c'est dans des monastères aussi que les choses ont pu s'expérimenter, s'inventer. Deuxième partie de l'hypothèse, c'est que finalement, cette scène monastique, c'est un observatoire des changements à l'œuvre dans le catholicisme contemporain en général. Et c'est pour ça que ce livre, qui est un livre sur les moines, est en fait, me semble-t-il, un excellent livre sur le catholicisme français. C'est, on va bien au-delà de l'objet seul des moines. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a autant passionnée, parce que moi, je dois l'avouer, moi, j'ai plutôt une prédilection pour les objets qui sont dans le monde. Vous voyez, je travaille sur les prêtres en paroisse, je travaille sur les aumôniers en prison, voilà. Donc c'est plutôt, moi, c'est plutôt comme ça que j'aime bien que je saisis hein, cette confrontation entre catholicisme et modernité, contemporanéité. Et en fait, Daniel m'a tout à fait convaincu que aller observer la scène monastique, c'est aussi mieux comprendre le devenir du catholicisme français. Je vais donner là aussi seulement deux exemples. Hein. Je crois que l'exemple, enfin la dimension qui est extrêmement intéressante et que d'habitude on saisit plutôt à travers la question de la paroisse, hein, mais qui est très bien illustrée dans le cas de cette scène monastique, c'est les contraintes démographiques hein, qui pèsent aujourd'hui sur le monde des moines et des moniales. Alors les statistiques, Daniel en donne, évoque aussi combien les comptages d'un ordre à un autre ne sont pas faits de la même façon, donc c'est un petit peu compliqué, mais en gros on a une tendance à la baisse qui est tout à fait claire, tout à fait nette, hein. Entre 1990 et 2006, on passe d'un peu plus de 60 000 moines et moniales à environ 35 000. Donc on a un amenuisement hein, qui est très net, dont les acteurs ont une très claire conscience et qui fait l'objet de nombreux commentaires. Pourquoi cette contrainte démographique ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un moindre recrutement, hein, des vocations qui sont plus rares et des vocations qui sont plus fragiles également. Parce qu'il y a des départs aussi hein, et parce qu'il y a un phénomène de vieillissement. Les communautés sont réduites en nombre et regroupent des personnes du troisième, voire du quatrième âge. Alors, c'est très intéressant de voir les effets concrets hein, de cette problématique du vieillissement, qui est une problématique qui a pénétré le catholicisme français assez récemment. Enfin, moi, j'avais suivi le dossier par rapport aux prêtres diocésains. Les évêques prennent vraiment conscience de la problématique du vieillissement des prêtres diocésains au tournant des années 2010. Et c'est à ce moment-là où il y a un groupe de réflexion à la conférence épiscopale qui est menée, qu'on encourage les évêques à recruter des assistantes sociales hein, dans chaque diocèse, qu'on s'intéresse aux normes sanitaires dans les EHPAD, etc. Enfin, je veux dire, c'est un dossier concret qui a toute une série de conséquences matérielles et que Daniel évoque aussi là dans le cas des monastères avec des effets très concrets sur les activités qui sont prises en charge. C'est-à-dire qu'il y a un repli sur la liturgie, mais toute une série d'activités autres ne sont plus prises en charge à partir du moment où il n'y a plus de personnes disponibles, de moines disponibles pour le faire. Et puis ça a des effets très concrets aussi sur la façon de célébrer. Hein. Qu'est-ce que ça change de célébrer quand les personnes sont peu nombreuses et puis lorsque les personnes sont âgées, qu'est-ce que ça change sur le chant hein, qui est au cœur de la liturgie monastique hein. Voilà. Donc ça, c'est une première dimension qui est tout à fait éclairante et qui va jusqu'à poser la question de la survie même hein, de certains monastères, hein, avec l'idée que il y a des lieux qui seront fermés, hein, des lieux qui vont se regrouper. Et c'est des choses dont les moines parlent beaucoup, hein, Bon, pour l'instant, il y a pas grand-chose qui s'est fait, mais c'est probablement l'horizon, un horizon dont les acteurs ont eux-mêmes tout à fait conscience. Alors, ça me permet de faire une transition avec le second point qui me semble très intéressant à observer du côté du monachisme et qui nous dit des choses sur le catholicisme français en général, c'est l'énigme hein, que souligne Daniel dans un de ses chapitres, l'énigme des traditionalistes. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait que, par rapport à ce tableau, une espèce de peau de chagrin là, qui se rétracte, qu'est-ce qui fait qu'un petit nombre de monastères, moi qui suis une fille du Midi de la France, j'avais bien en tête l'exemple du Barou, par exemple, hein, que Daniel évoque, elle a visité. Comment est-ce qu'un petit nombre de monastères semble justement échapper hein, à ce mouvement de déperdition ? Alors, il semble échapper, du moins, au regard du nombre de postulants, hein, qui sont volontiers publicisés, hein, on publicise volontiers le nombre d'entrées. Comme le dit Daniel, on est en général beaucoup plus discret sur le nombre de départs, hein, parce que c'est, on le sait, enfin, je veux dire, on le sait pour d'autres communautés religieuses qui sont très attractives, qui ont été très attractives et qui connaissent aussi un nombre de départs qui est tout à fait important. Et donc ça nous fait rentrer dans ce deuxième élément que je tenais à souligner devant vous, qui est la façon dont observer ce monde monastique, et je n'ai pas le temps de le développer, mais Daniel insiste beaucoup sur la dimension liturgique de cette pluralité. Hein. Observer le monde monastique, c'est aussi observer cette pluralité interne du catholicisme. Hein. Pluralité interne du catholicisme, cette pluralité de façon de s'identifier comme catholique. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ça fait longtemps qu'on en discutait, notamment en séminaire. Comment qualifier finalement ces foules catholiques qu'on a vues défiler, par exemple, dans les cortèges des Manifs pour tous en 2012-2013 hein. Comment qualifier ces phénomènes que moi j'observais chez un jeune clergé au début des années 2000 qui réadoptait des signes vestimentaires qui étaient censés les identifier de manière claire, retour du col romain, hein, alors plutôt dans certains diocèses, comme le diocèse de Paris, plus tard dans d'autres. Comment aussi comprendre ce qu'a étudié ma collègue historienne de l'art Isabelle Saint-Martin, la construction de nouvelles églises, notamment par le cardinal Lustiger, hein, vous savez, les nouvelles églises à Paris construites fin des années 90, début des années 2000, je pense par exemple à Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, dans le 15e, il y a, je crois, 5 ou 6 églises qui sont construites et qui sont justement une volonté de redonner à voir dans l'espace de la cité, dans la monumentalité même du bâtiment, hein, une dimension chrétienne. Et dans le cas de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, qui est déjà un bâtiment extrêmement visible, le projet du curé, c'est de rajouter une immense croix, hein, qui au départ n'avait pas pu être ajoutée pour des raisons de sécurité liées aux circulations des hélicoptères. Et là, je ne sais pas, il a réussi à négocier son affaire. Et donc, on verra encore plus loin cette croix. Bon. Comment expliquer, comment comprendre aussi ce succès des Journées mondiales de la jeunesse, hein, cette façon d'habiter l'espace public joyeuse, jeune, festive, conviviale, mais marquant une identité catholique, hein. Comment expliquer le regain de toute une série de pratiques qu'on pensait complètement tomber en désuétude, je pense au chemin de croix, hein, qu'avait restauré justement le cardinal Lustiger à la fin des années 90, hein, de ressortir dans la rue en procession pour faire le chemin de croix qui était pratiqué à l'intérieur des églises, hein, à ce moment-là, et qui aujourd'hui se fait un peu partout dans Paris, et bien au-delà. Voilà. Alors, comment expliquer ça? Et finalement, c'est en s'intéressant à ce qui peut être attractif, justement, dans ces monastères comme le Barou ou d'autres, et notamment sur le côté extrêmement spectaculaire de la liturgie, hein, et l'attraction que ça peut susciter, non seulement pour des vocations, mais aussi pour l'attrait des visiteurs, hein, qui vont se rendre dans ces lieux-là. Et je crois que c'est très intéressant la notion que nous donne Daniel à ce moment-là, qui est celle de catholicisme ostensible. C'est-à-dire que ce catholicisme ostensible, qui est justement pas à repenser, alors qu'il peut s'articuler, hein, avec le catholicisme intransigeant, qui peut le rencontrer d'une certaine façon, mais qui est différent de lui parce que justement il est très largement désidéologisé. Hein, c'est-à-dire que justement le fait de remettre un col romain, le fait de refaire des processions dans la rue, le fait de redire du latin, etc., tous ces signes-là, par des jeunes générations, c'est pas du tout perçu comme étant porteur d'une idéologie, d'une forme de politisation. C'est désidéologisé, hein. Donc c'est quelque chose qui va s'articuler avec cet héritage d'autres façons de penser la pluralité du catholicisme. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de comprendre que ce catholicisme ostensible, c'est un catholicisme de distinction, c'est-à-dire que pour des catholiques qui sont en train de devenir une minorité, hein, et qui en tous les cas se vivent comme une minorité, hein, parce que quand on étudie les minorités religieuses, ce qui compte souvent plus, c'est moins le quantitatif que le vécu subjectif des individus. Hein, donc ces catholiques qui vivent subjectivement, douloureusement, cette mise en minorité, vont trouver finalement dans toute une série de pratiques, et notamment dans la liturgie, et notamment dans la liturgie qui est proposée par ces monastères, une forme de distinction, hein, et de réassurance individuelle et collective quant à leur identité de catholique. Donc voilà, je vous ai donné que quelques pistes. La démonstration est magistrale, l'ouvrage est parfaitement construit, tricoté serré, comme me le disait elle-même Danielle tout à l'heure, et elle s'appuie sur une grande érudition dont même les historiens ne trouvent rien à redire. Donc il est bien difficile de le discuter. J'exprimerai pour finir peut-être juste deux petites frustrations. Non pas parce que les deux objets que je vais évoquer là sont absents de l'ouvrage, c'est pas du tout le cas, mais parce que moi j'aurais aimé que ces deux fils-là soient peut-être davantage tirés, mais vous allez dire là aussi c'est peut-être lié, je reconnais que c'est assez lié à mes propres objets et intérêts de recherche. Pourquoi, cher Daniel, n'avoir étudié que les hommes et exclu les moniales de ton corpus? Alors tu nous donnes des raisons, bon, qui me convainquent tout à fait à moitié, je dois dire. Parce que je trouvais que justement, du point de vue du genre, on a là, avec le monachisme, quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que justement, c'est une vie religieuse qui est accessible aux hommes comme aux femmes. C'est pas la prêtrise, justement. Donc là, on a quelque chose, donc le fait que ce soit accessible aux hommes comme aux femmes, et en même temps, c'est des espaces qui sont ségrégés en fonction du sexe, hein, voilà. Et c'est dommage, finalement, parce que justement, les moniales, personne ne s'y intéresse vraiment, c'est-à-dire que lorsque c'est Isabelle Jourvaux qui a fait un très bon article dans la revue Sociologie sur cette question-là, qui évoque justement cette invisibilisation des moniales dans les travaux sur le monachisme, et qui est souvent pensée uniquement au masculin. Et justement, quand on pense aux grandes transformations que connaît le catholicisme contemporain, une des grandes questions, c'est la division du travail religieux entre les sexes, et c'est la féminisation de l'accès à l'autorité. Alors, ceci dit, Danielle nous dit qu'elle étudie pas les moniales, mais il y a plusieurs pages hein, où justement cette question revient et où elle nous donne déjà des pistes, notamment lorsque, par exemple, tu évoques, Danielle, les pratiques de coopération très remarquablement égalitaires dont tu as entendu parler dans les domaines aussi importants que la liturgie, la formation, la conduite des relations intermonastiques. Lorsque tu évoques aussi des formes de mixité intégrées à la gouvernance des congrégations et des ordres, mais aussi, on le sait bien, lorsque tu évoques la persistance d'une forme de domination masculine, notamment perceptible lorsqu'il est question de la clôture, hein, qui historiquement est inventée d'abord pour les moniales, hein, et qui est plus contraignante, hein, il y a cette dissymétrie de la clôture qui est plus contraignante aujourd'hui encore pour les communautés de femmes qu'elle ne l'est pour les communautés d'hommes. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu montres aussi des expériences qui viennent bousculer à la fois cette hiérarchie cette ségrégation des sexes, hein, notamment lorsque tu évoques l'expérience communautaire de Boken, donc une des dimensions, hein, et qui est une des dimensions utopiques justement, hein, c'est d'en finir avec cette séparation et cette hiérarchisation. Alors de manière peut-être bien plus sage, hein, le cas aussi que tu cites des fraternités monastiques de Jérusalem, hein, où il y a une communauté de frères et une communauté de sœurs, ce qui rompt là aussi quand même, c'est quelque chose de par rapport au monachisme traditionnel, hein, cette forme de mixité qui est introduite. Et puis la question revient aussi en lien avec un des phénomènes que j'ai déjà évoqué, celui du vieillissement. Le vieillissement fait rentrer les femmes dans les monastères d'hommes, hein, parce qu'il y a des infirmières qui viennent, des personnels soignantes, des femmes qui viennent s'occuper des hommes, des moines, parce que il y a aussi un personnel salarié qui arrive, hein, l'hôtellerie, le magasin du monastère qui est confié à un personnel salarié et souvent à des femmes, et puis aussi parce que ça a des effets organisationnels plus significatifs, hein, en termes de coopération pastorale pour la formation, pour le chant liturgique notamment. Deuxième sujet sur lequel peut-être il y aurait encore des choses à creuser, hein, c'est, me semble-t-il, la question de la sexualité. Parce que la question de l'ascèse, Jean-Luc Poutier l'a dit, hein, est au cœur de l'ouvrage, hein, cette question du rapport au corps, hein, qui est tout à fait central dans l'ouvrage. Et je dirais qu'on a des développements substantiels et extrêmement précieux sur la question du jeûne et sur la question de justement de ce nouveau rapport aux pratiques alimentaires. On aimerait en savoir un peu plus sur la sexualité, c'est-à-dire parce que finalement le régime d'abstinence sexuelle qui résulte du vœu de chasteté, hein, et qui conduit donc à ce célibat permanent, hein, qui est complètement central, hein, qui est, tu le dis toi-même, Daniel, le point nodal de la définition de l'idéal monastique, eh ben, il est bousculé, bien évidemment, par la libération sexuelle des années 70, par toutes ces mutations, hein, de genre et de sexualité. Et en même temps, lui, contrairement à d'autres dimensions, on ne peut pas le métaphoriser. C'est ce qui en fait sa spécificité. Et que finalement tous ces interdits qui se sont desserrés, ce rapport au corps aussi différent dont sont probablement auxquels ont été socialisés en tous les cas les jeunes générations de moines, comment est-ce que c'est géré concrètement dans à la fois cette question du célibat et cette question de la sexualité, dont on voit qu'elles ne sont pas absentes. Hein, leur politisation n'est pas absente, hein, des monastères. Lorsque, par exemple, Daniel évoque le père abbé de Fongombeau qui, à l'automne 2013, intervient dans la commune où, parmi les élus locaux, il y a deux moines pour encourager les élus à ne pas marier les couples de même sexe. Mais à l'inverse, on sait aussi que les monastères sont des lieux où s'inventent aussi des choses. C'est aussi des lieux sur ces questions de sexualité. Moi qui travaille en ce moment sur des couples de même sexe, de personnes donc gays ou lesbiennes, pratiquantes catholiques régulières, qui font le choix de se marier et qui, souvent, à cette occasion-là, font une retraite dans un monastère et trouvent là un espace aussi où ils ou elles sont accueillis. Voilà, donc ces deux, vous voyez, ces deux pistes possibles qui sont tout à fait liées à mes intérêts de recherche, mais sur lesquelles j'aimerais bien entendre Daniel.
Merci à vous, Céline Béraud, pour cette lecture. Vous voyez, le livre est riche, enthousiasmant, je crois qu'on peut le dire aussi. Alors, Daniel, que diriez-vous ?
Je ne sais pas comment je vais me saisir de l'ensemble des questions que j'aimerais, sur lesquelles j'aimerais revenir avec mes interlocuteurs successifs. Je voudrais commencer en reprenant la formule de Patrick Goujon tout à l'heure sur le bonheur de l'enquête, pour confirmer à quel point ce livre m'a donné du plaisir à faire. Même ça a été long, ça a pris 5 ans, je n'ai jamais mis autant de temps à écrire un livre et à conduire l'enquête sur le terrain et à lire des tas de choses. Et en même temps, je pense que ça a été un bonheur très particulier. Alors, peut-être parce que c'est probablement l'un des derniers dans ma carrière. Peut-être que j'écrirai encore des choses, mais enfin, c'est vraiment la toute fin de ma vie professionnelle. Et j'ai d'autres projets, je ne suis pas sûre de passer ma vie à faire des livres maintenant. Si j'écris, ce sera latéral par rapport à la vie que je mène maintenant. Et puis, en même temps, ce livre, il a été un vrai bonheur de deux façons. D'une part, parce que je suis entrée avec une jubilation extrêmement inquiète et même anxieuse dans un registre qui n'est pas le mien, qui est l'histoire. J'ai toujours travaillé sur le contemporain, archi-contemporain. Là, je me suis risquée sur des terres, et je m'y suis évidemment aventurée avec énormément de précautions, bardée de tout l'arsenal de méthodologie de la sociologie historique et en me disant comment est-ce que les historiens vont réagir, mais en même temps je dois dire que la plongée dans les dossiers historiques a été un véritable bonheur. Et comment dire, j'ai trouvé que le travail des historiens il avait des bons côtés quand même, parce qu'ils travaillent sur une matière refroidie la plupart du temps, et cette matière refroidie, c'est s'en saisir précisément permet de faire jouer le récit autrement, le travail narratif autrement par rapport au terrain d'enquête. Enfin, pour moi, ça a été une découverte parce que j'avais jamais fait ça. Même si j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à l'arrière-plan historique. Je ne l'avais jamais mobilisé de cette façon. La deuxième raison, c'est le bonheur du bonheur de l'enquête, ça a été l'exceptionnel accueil que j'ai trouvé du côté des moines. C'est-à-dire que j'ai été merveilleusement reçue par des gens d'une disponibilité, d'une ouverture, d'une liberté de parole absolument exceptionnelle. J'ai rencontré très très peu de refus. Et j'ai réussi presque toujours à les contourner. Mais j'ai été vraiment frappée surtout de l'extraordinaire capacité réflexive que les gens étaient capables de. J'avais jamais conduit des entretiens avec des acteurs réflexifs aussi affûtés, aussi lucides, aussi disposés à avancer dans le propos. Ça a été vraiment un très, très. Pour moi, ça a été une révélation. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me disais, en plus, j'arrive, une femme dans le monastère d'hommes, comment tout ça va se passer? Franchement, ça a été assez étonnant. Je suis là dans une phase très agréable de service après-vente, si j'ose dire. C'est-à-dire que maintenant, ils me demandent d'y revenir. Et vraiment, les contacts sont excellents, notamment, il faut bien le dire, avec les plus âgés qui ont tout traversé et qui sont d'une liberté. Et d'une disponibilité absolument exceptionnelle. Et puis on vit très vieux dans les abbayes, c'est des gens très très âgés, incroyablement clairs dans leur tête, c'est un bonheur. Bref, pourquoi j'ai travaillé sur les monastères quand même en deux mots? Pourquoi cette obsession du monachisme qui, bon, je veux dire, je m'intéressais aux moines. En fait, ce qui m'intéressait, et depuis très longtemps en réalité, c'était ce fil de l'utopie qui traverse à peu près tous mes travaux depuis les tout premiers. Ce qui m'intéresse, au fond, c'est l'utopie. Et au fond, la question de l'utopie a toujours été pour moi la manière de faire exploser les cadres de pensée habituels de la sociologie sur le religieux, qui a une tendance congénitale, pour des raisons facilement explicables, d'aborder la religion à travers la croyance. Et si jamais on s'intéresse aux pratiques, c'est comme une sorte de déclinaison d'application de la croyance. Et moi, depuis très longtemps, la question, et au fond j'ai tourné autour tout au long de ma trajectoire scientifique, c'était d'essayer de penser le religieux comme rapport au monde. La question j'ai effectué ce déplacement de la croyance vers la question du rapport au monde dans le livre que vous avez cité, La religion pour mémoire, en m'intéressant à la manière dont, en fait, croire religieusement, c'était d'abord s'inscrire dans une lignée. Et comment l'inscription dans une lignée croyante transformait la façon qu'on avait de se rapporter à ce monde. Donc ça a été sûrement d'abord la première chose. Mais derrière, il y avait une question qui me préoccupe depuis plus longtemps, qui est justement la question de la religion, possiblement sous sa version utopique, comme forme de vie. Comme forme de vie, et évidemment, singulièrement, celle du christianisme comme forme de vie. Et c'est la raison, en effet, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt et même de passion pour les travaux de Christophe Théobald, et où je me suis employée à opérationnaliser un certain nombre de ces intuitions que je trouve absolument majeures sur cette question. Ça, c'est un aparté. Alors, je profite de ce préambule pour répondre à la question de Céline, pourquoi les hommes? Alors, je vais répondre parce que c'était la pente de la plus grande facilité. Ça peut paraître tout à fait étrange. Mais en réalité, venir comme femme sociologue dans un monastère d'hommes était une situation beaucoup moins compliquée à gérer pour moi que d'entrer comme femme dans des monastères de femmes. Et j'ai fait quelques tentatives, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas, d'une part, à prendre en compte sérieusement la spécificité du monachisme féminin, qui est d'abord une spécificité canonique, juridique, lié à l'existence de la clôture. Vous savez que canoniquement, il n'y a pas de définition du moine, alors qu'il y a une définition de la moniale. La moniale, c'est celle qui est derrière la clôture. Bon, c'est comme ça que le droit canon définit la moniale. Et donc, il fallait donc prendre... Je pouvais pas faire un travail à la fois sur les hommes et les femmes. Il fallait que je fasse un travail qui, à ce moment-là, si j'avais voulu travailler sur les femmes, parte de cette singularité historique du monachisme féminin, et décline à partir de là un certain nombre de... redécline autrement les questions qui m'intéressaient. À cela s'ajoutait, je n'en fais absolument aucun mystère, le sentiment que j'ai eu d'être beaucoup moins en situation de contrôler, de faire du contrôle épistémologique de ma propre situation d'observatrice. C'était bien plus facile pour moi de le faire avec des hommes qu'avec des femmes, parce que dès que j'entamais la discussion avec des femmes, j'ai essayé, hein, des enjeux qui sont des enjeux personnels, en tant que femme, dans leur situation, dans leur rapport, par exemple, leur manière, bon, je vais le dire, d'avoir une angoisse terrible à l'égard, à l'idée que je pourrais sortir de chez elle avec l'idée qu'il y a des conflits. Question qui n'encombre absolument pas les hommes. À beaucoup près, au contraire, toujours de parler abondamment des conflits, des tensions, des problèmes, etc. Il y avait une espèce d'angoisse chez les femmes que j'ai rencontrées de faire apparaître autre chose que le désir lisse d'une vie communautaire pleine et parfaite, ce qui évidemment n'existe pas, et ça ne m'aurait pas choquée. Et donc, c'est pas que je n'étais pas capable de décoder ça, mais ça me flanquait dans un tel état de nerfs que je préférais réserver cette question. Voilà pour répondre à cette question. Alors, c'est très difficile à expliquer, je l'ai fait aussi sobrement que possible dans le livre, parce que je ne veux pas qu'on imagine que derrière ça, une espèce de dévalorisation des femmes ou je ne sais pas quoi. Dieu m'en préserve. Mais ce n'est pas du tout ça la question. C'est que, voilà, c'était des situations dans lesquelles je n'avais pas la moelle pour tenir les choses du point de vue épistémologique comme je pouvais le faire dans un monastère d'hommes où les choses étaient bien plus simples. Bon. Alors, la seconde raison, et je vais à travers cette manière de présenter les raisons que j'ai eues de faire ce travail, revenir sur des questions qui m'ont été posées. Évidemment, au-delà de cette question de l'utopie, c'est-à-dire de penser le religieux comme forme de vie, il y avait une autre question également transversale à tous mes travaux, qui était bien entendu celle du devenir du religieux, et spécifiquement du christianisme, dans un monde post-chrétien, post-religieux et post-chrétien. C'est évidemment, sur le terrain des monastères, j'ai continué de creuser, tirer le fil de la réflexion sur la sécularisation, sur laquelle j'ai une lecture assez profondément différente de celle de Jean-Luc Poutier, puisque à aucun moment je ne pense que, par exemple, les moines, sortis du premier moment de la reconquête, je vais y revenir, oublient l'utopie. Ils n'oublient rien du tout. Ils ont une utopie qui s'est tout simplement transformée. Et l'utopie, le souhait d'inscrire le christianisme dans une forme de vie, n'est pas moindre au moment du Concile ou dans la période contemporaine par rapport à ce qu'il a pu être du temps de Guéranger ou de Jean-Baptiste Muard. Simplement, ça se passe autrement. Ça se passe autrement. Et là, j'arrive au point que Céline a soulevé. L'un de mes grands objectifs dans ce travail était d'établir le caractère de part en part historique du monachisme. Le monachisme, ce n'est pas une essence, ce n'est pas une sorte d'entité qui descend du ciel, le monachisme, ou qui monte des fins fonds de l'Antiquité. Le monachisme est de part en part une institution historique qui s'inscrit dans des configurations extrêmement précises qui vont lui donner, jusque et y compris, sa logique utopique. Donc, pour moi, le fait, par exemple, d'étudier, en effet, l'acclimatation des idéaux démocratiques au sein des communautés, avec les mutations que ça implique dans la conception même des relations entre frères, cette espèce de passage de la verticalité de la figure de l'abbé à l'insistance croissante mise sur la qualité du lien entre les frères, dont l'abbé n'est que le garant. Ça n'implique pas que je les ai oubliés ce qu'il pouvait y avoir d'utopie dans l'idéal d'obéissance, mais qu'il le reconfigure autrement. Donc, c'est une réponse à Jean-Luc Poutier. Je ne pense pas du tout qu'il y ait une sorte d'évanescence utopique au travers des étapes traversées par le monachisme. Je pense tout simplement qu'on a des configurations extrêmement différentes. Troisième point, le choix du monastère comme laboratoire des relations du christianisme et du catholicisme romain, mais plus largement du christianisme même, comme laboratoire de la relation avec la modernité. Là, effectivement, c'était une hypothèse qui, pour le moins, n'allait pas de soi. Les intéressés, d'ailleurs, ça les surprend vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on demande enfin, pourquoi nous ? Alors, vraiment. Bon. Et en fait, ce qui m'a absolument fasciné, c'est la manière dont l'institution monastique, sur ces deux siècles, a littéralement condensé les grands enjeux du rapport du catholicisme et du christianisme en général aux impératifs de la modernité, y compris dans la manière dont progressivement la requête qui définit la modernité, qui est la requête de l'autonomie, va progressivement s'imposer. Avec des effets de condensation, puisque précisément se joue dans cet espace relativement clos, se joue à l'extrême et poussé à l'extrême la logique de ces différentes constructions du rapport. Alors, trois temps principaux, en effet, et là encore je vais répondre à des questions qui m'ont été posées. Le choix de faire commencer l'enquête au lendemain de la Révolution, pourquoi ? Tout simplement parce que, après la Révolution, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de moines. Il y a quelques trappistes qui se promènent au fin fond de l'Europe et de l'Amérique sous la houlette de l'Estrange. Et puis pour le reste, il n'y a plus un bénédictin. Et ce qui est fascinant, c'est que la réinvention de l'institution monastique sous la Restauration va se faire non pas à partir de ce qui reste des moines, ils sont tous disséminés dans la nature, mais se fait à partir de prêtres séculiers, ultramontains, en réaction radicale contre le gallicanisme qui est largement dominant dans l'Église de France, et qui vont inventer le monachisme comme réponse à la fois au gallicanisme et à la Révolution française, et qui vont refuser la composition avec l'ordre nouveau du monde que le gallicanisme, lui, est prêt à endosser. Ce sont des prêtres, ce sont des séculiers qui ne connaissent rien du monachisme. Rien du tout. Guéranger, il connaît le monachisme à travers Montalembert. Et donc, Jean-Baptiste Muard, il va chercher partout, dans tous les... Alors, il y a plusieurs cas de figure, d'ailleurs, parce que Guéranger, lui, va d'emblée avoir en tête un modèle qui va rêver, qui est les moines savants de Saint-Maur. C'est clair que c'est ça sa référence. Et son objectif, c'est la reconquête à la fois politique et religieuse d'un monde qui est en train de courir à sa perte dans la vision qu'il a du monde. Et il va le faire en faisant donc du monastère l'anticipation, et c'est en ce sens que le cas monastique est extraordinairement passionnant, c'est qu'il est à chaque moment micro-réalisation, anticipation concrète d'un modèle de christianisme rêvé. Et donc, il va, au fond, dans le monastère, dans sa conception de l'autorité, de l'abbé, du rôle de la règle, etc., il va donner à voir non seulement la figure idéale de l'Église rassemblée autour de son centre romain contre les errements gallicans, mais aussi de la société tout entière rassemblée autour de la figure de l'abbé qui est l'autorité même, c'est-à-dire l'autorité qui descend du ciel. Donc, le modèle guérangérien consiste à rêver la reconquête par une sorte d'anticipation concrète de l'idéal à la fois politique, enfin, théologico-politique, politique et théologique de la société alternative au monde issu de la Révolution française. Avec au centre une figure d'ailleurs, dans le cas guérangérien, humaine et conciliante, aimable, du père de famille, mais en fait ce père de famille c'est le pater familias romain. Voilà. Et donc ce modèle-là va progressivement absorber d'autres modèles que j'ai évoqués, dont le modèle mis en place par Jean-Baptiste Muard, qui est lui aussi un prêtre séculier, qui est un prêtre nourri de l'idéal de la mission, lui, c'est pas par le haut qu'il envisage de réinventer cette société toute chrétienne, c'est par le bas en allant reconquérir les âmes une à une, et il envoie ses moines prêcher dans les paroisses, etc. Donc, en fait, il est un prêtre missionnaire. Il a d'ailleurs créé, avant de fonder la pierre qui vire, il va créer un monastère, il va créer une société de prêtres missionnaires qu'il va abandonner pour construire le monastère, parce qu'il veut en même temps... Alors, il est travaillé par un rêve qui est, au fond, et ça, j'ai testé cette idée auprès du père Lair, qui a tout à fait confirmé l'intérêt de cette hypothèse, il rêve, lui, au fond, de construire l'ordre de la fin des temps. Il a une vision joachimiste, au moment où le monde court à sa perte, lui aussi, mais il va y avoir un basculement, et ce basculement, cette rupture, elle sera anticipée par un ordre qui sera aussi pauvre que les franciscains, aussi prêcheur que les dominicains, aussi... qui récapitulera toutes les dimensions, il rêvait, et c'est un peu par hasard d'ailleurs, il ne verra pas de son vivant un monastère bénédictin. C'est son successeur qui fera, accréditer la formule, sachant que lui avait écrit des constitutions tellement invivables pour les moines que le pape, dans sa grande sagesse, avait dit c'est absolument admirable, mais surtout pas. Bon. Et donc, Jean-Baptiste Muard abandonne son projet et va, après avoir inventé, rêvé dans sa tête cet ordre de la fin, va finalement être de fait fondateur d'une branche bénédictine, mais c'est son successeur qui va réaliser l'opération. J'ai ajouté, mais pour la beauté de la chose, un troisième modèle, mais ça c'est parce que je travaillais en sociologie historique, j'étais intéressée à faire apparaître des figures typiques, la figure descendante guérangérienne, la figure ascendante de la mission de Jean-Baptiste Muard, et puis quand même ce cas insensé de Emmanuel André, fondateur du prieuré du Ménil-Saint-Loup, qui deviendra ensuite la matrice d'où sortira l'abbaye du Bec-et-Loing, qui va se rejoindre les bénédictins olivétains, là aussi tardivement, mais qui a la particularité d'avoir tout simplement tenté de faire entrer la société dans le monastère. Puisqu'il n'y avait pas moyen de re-christianiser véritablement le monde, on pouvait au moins à l'échelle d'une paroisse faire rentrer. Et donc, il a entraîné sa paroisse dans une sorte de rêve monastique qui finalement échoue, on pouvait s'y attendre, échoue et se résout par l'implantation de deux communautés, une d'hommes et une de femmes, alors classiquement monastiques, c'est-à-dire avec notamment... des gens faisant les vœux monastiques. Ce dossier historique était déjà une première manière de montrer qu'on n'était pas du tout dans la reconstitution historique d'un monachisme éternel. Et ça avait aussi comme vertu de faire apparaître que ceux qui aujourd'hui déclarent être les héritiers des moines de toujours sont en fait les héritiers d'une... Donc, je n'emploie ni le mot refondation, ni le mot rétablissement, ni le mot restauration, je parle de fondateurs. Je les considère comme des fondateurs au plein sens du terme. Donc, ce premier moment, j'y insiste un petit peu, en fait, vous avez raison, la guerre de 14 marque les premières fissures du modèle qui, finalement, dans toutes les négociations avec Rome, a fini par stabiliser un modèle monastique. On voit les premières fissures apparaître avec la guerre de 14, avec en fait effectivement un débat très important. Les moines doivent-ils entrer dans la guerre et combattre ou pas? Il se trouve que le patriotisme des moines l'a emporté sur le désir de certains, dont quand même l'héritier de Guéranger, le successeur de Guéranger à Solesmes, de Latte, qui lui était opposé à l'idée que les moines aillent combattre dans les tranchées. Finalement, ils y sont allés, ils ont payé leur tribut. Et ils ont donc participé comme moines à ce moment crucial de non pas de résolution entière, mais quand même d'apaisement très net de la guerre des deux France, qui a été l'expérience de la guerre, l'expérience du combat, l'expérience des tranchées, dans laquelle finalement on assiste au fond jusqu'à un certain point à la fin du combat frontal entre deux mondes qui dominait depuis la Révolution. Ça n'exclut pas tous les problèmes, puisqu'ils seront encore réexpulsés après la guerre, mais enfin tout de même, vu le tribut qu'ils ont payé, on va vite oublier cette histoire et on va finalement accréditer la présence des monastères en France. Ce moment de la guerre de 14 va marquer toute une série de mutations internes qui vont progressivement changer, dont, et j'aurais pu le faire d'approfondir si j'avais été plus savante, qui est le rôle très important du travail monastique sur les textes, le rôle de la patristique, le rôle de la découverte des sources anciennes, bref, toute une série d'évolutions intellectuelles qui vont activer des bouleversements qui, eux, sont très largement induits par le changement du monde, le fait que les moines, le voulant ou pas, ils viennent d'un monde, ils sortent d'un monde et donc ils emportent aussi toutes les traces, qui eux-mêmes vont être, par exemple, acclimatés à la démocratie, acclimatés à l'idéal d'autonomie, acclimatés à l'idéal d'intimité personnelle au sein même du monastère. Et on voit effectivement le monde pénétrer le monastère et le transformer, mais il ne faut pas négliger la dimension autogénérée de ce changement à partir notamment du travail sur les textes et de ce que l'énorme capital intellectuel embarqué dans les monastères a permis de réaliser de ce point de vue-là. Parce que ça, c'est aussi une dimension de cet objet qui est passionnante. C'est qu'il y a quand même un capital culturel, pour parler comme l'autre, absolument exceptionnel et qui a évidemment des effets sociaux. Donc, deuxième moment des monastères qui ne se... Et je vais répondre à un point très important sur ce qu'a dit Jean-Luc. Dans cette affaire du retour de la question du royaume, je ne dirais pas qu'on récupère le royaume parce qu'on a perdu l'économie du salut. Je dirais qu'on retrouve le royaume parce qu'on a perdu le rêve d'une société toute chrétienne. Et que la question donc de l'horizon utopique va se déplacer en disjoignant le fait que pour la première génération monastique, la réalisation du royaume, c'est le triomphe de l'Église. Le deuxième moment, c'est la disjonction d'un hypothétique triomphe de l'Église auquel plus personne ne croit, mais l'idéal du royaume, du même coup, reprend toute sa place. La mutation des lectures des textes aussi ayant énormément sa part là-dedans. Donc, déplacement de l'horizon utopique, non plus l'horizon de la reconquête, mais l'horizon d'un nouvel accomplissement chrétien dans le monde qui va se jouer spécifiquement dans l'idéal d'une réconciliation du tissu chrétien, d'une réconciliation des différentes églises chrétiennes. Pourquoi cet horizon œcuménique qui va donc naître dans les monastères dans les années 50, bien avant que le Concile Vatican II? Tout simplement, et ce n'est pas du tout un hasard si le mouvement œcuménique prend naissance dans le monde monastique pour une très large part, même l'abbé Couturier qui était... et qu'il était un trappiste manqué, il avait rêvé d'entrer à la trappe, il avait des liens constants avec le monde monastique. Tout cet enjeu de l'œcuménisme, elle est précisément liée à la manière dont l'utopie du royaume reprend corps comme forme d'anticipation à travers ce rêve, au fond, d'une sorte de mission spécifique des moines. Pourquoi ? Parce que précisément ils viennent d'avant. Ils viennent d'avant les schismes, ils viennent d'avant les grandes ruptures au sein de l'Église. Ils sont les porteurs, au fond, d'une intuition chrétienne originaire et ils sont du même coup responsables de cet horizon œcuménique. Donc, deuxième moment autour de l'œcuménisme, qui est aussi le moment dans lequel la vision de la communauté Et puisque le monastère lui-même devient donc le lieu d'anticipation idéale de cette unité, ce qui transforme complètement le rapport à l'abbé, et en particulier, on voit, si vous voulez, dans le premier modèle, la relation des moines à l'abbé, ce sont des individus en rapport avec un maître spirituel. Hein, et on a toute une vision du monachisme comme étant à l'origine des solitaires qui se rassemblent autour d'un maître. Or, précisément, les découvertes textuelles font apparaître de nous d'autres formes possibles, et ces autres formes possibles, ce sont des individus, des personnes qui vont jouer la recherche d'une vie parfaite entre frères, peut-être que ça comporte, mais enfin c'est quand même ça l'horizon, l'abbé étant celui qui témoigne de cette unité. Bon, unité de la communauté, unité des églises, on voit bien que c'est la thématique de l'unité qui est complètement centrale, alors que dans le premier moment, la thématique principale, c'est celle de l'obéissance. C'est celle de l'obéissance qui correspond à ce modèle hiérarchique. Alors, tout ça, c'est des types idéaux. Hein. Concrètement, il y a toujours eu des gens préoccupés de la question de l'unité dans les monastères. Mais il n'empêche que ça permet de repérer des moments. Tant qu'on est dans ces deux moments, et là, je continue et je vais reprendre la question de la sécurité. Tant qu'on est dans ces deux moments, on est encore dans un dispositif classiquement, alors je vais parler à un jargon sociologue, on est dans une logique de type église. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le mode de vie des chrétiens lambda qui se conforment aux prescriptions morales, qui remplissent leurs obligations pratiquantes, qui professent les vérités que l'Église leur dit de professer. Et puis de l'autre côté, il y a dans ce modèle de type Église, il y a un certain nombre d'individus qui, eux, sont ce que Max Weber appelle les moines détestent quand on évoque ça, mais c'est quand même le mot de Weber, donc je l'utilise, des virtuoses. Des virtuoses, c'est-à-dire ceux qui, dans la modalité de compromis qui résulte du fait que le royaume, on l'attend toujours et qui ne se presse pas d'arriver, il y a des gens qui l'anticipent déjà concrètement dans leur vie. Bon, ces virtuoses, cette double éthique, ce christianisme à deux vitesses, il est structurel. Depuis les origines du christianisme, il y a toujours eu ces deux modèles que nous appelons de communalisation. Bon, tant qu'on est dans les deux modèles que je viens d'évoquer, celui du 19e et celui des années 50-60, on est encore dans une logique de type église qui peut fonctionner, et la question de la virtuosité, de l'exceptionnalité de la voie de et reste présente. On voit bien euphémiser la dimension de supériorité du virtuose, qui était très présente, et il y a des textes que je cite d'ailleurs qui sont assez en là-dessus, sur la supériorité de la voie monastique sur toutes les autres, mais malgré tout, on est quand même dans une espèce d'évidence qu'il y a ceux qui sont appelés à une vie radicale. Le problème, et ça c'est une grande question qui m'a décidé à travailler sur les moines, c'est que la question que je pose, et elle pose la question de l'avenir du christianisme. Qu'est-ce qui se passe quand on sort de ce modèle de type église, non pas parce que on abandonne le rapport religieux, ce qui est la théorie classique de la sécularisation, mais tout simplement parce que tout le monde est devenu minoritaire. Et tout le monde est devenu minoritaire, c'est-à-dire dans un monde post-chrétien, que peut signifier cette distinction entre le catholicisme de tous et le catholicisme des virtuoses, qu'est-ce que ça peut signifier quand tout le monde est minoritaire, donc en situation d'être sollicité de devenir virtuose? Or, cette question de la virtuosité pour tous est une question qui travaille profondément la structure catholique aujourd'hui et qui met très sérieusement, mais ça c'est un autre sujet, mais on pourra en parler, qui a des conséquences très importantes sur le dispositif de l'autorité ecclésiale. Donc le dispositif de l'autorité ecclésiale, il est fait pour gérer ce catholicisme moyen de tout le monde. Il n'est absolument pas fait pour gérer des gens qui se revendiquent d'une virtuosité. Or, tout le monde se revendique d'une virtuosité. Alors où est le moine? Et qu'est-ce que les moines font de cette virtuosité? Et évidemment, ça pose très exactement la question de... Alors bon, il y a des reconfigurations possibles de l'hypothèse de la virtuosité la plus classique, la plus courante, celle qui permet aux moines de vivre aujourd'hui, consiste non pas à se prétendre dans une voie supérieure de réalisation de la vocation chrétienne, mais à affirmer simplement la singularité personnelle d'une voie dans laquelle ils revendiquent d'ailleurs l'épanouissement individuel, ce que Céline a souligné. En effet, les idéaux de l'accomplissement personnel, typiques de la culture de l'individu, ont complètement pénétré les monastères où on vous tient des discours sur la réalisation de soi, le bonheur d'être moine, etc., qui sont complètement dans le cours de cette culture. Et le fait que ça passe par une performance particulière est d'ailleurs assez bien dans l'air du temps aussi, dans lequel l'idéal de la performance individuelle. Donc il y a des reconfigurations possibles de cette affaire, mais il n'empêche qu'en effet, ça se heurte à une évidence, c'est qu'à partir du moment où tout le monde est virtuose, la singularité de cette et l'exigence particulière de cette forme-là de vie virtuose est problématique. Et que, en effet, le sort du monachisme n'est pas... On peut vraiment se demander s'il y aura encore des communautés monastiques. Il y aura sûrement des moines. Mais le tissu des communautés monastiques tel qu'il existe encore, tel qu'il est hérité de l'histoire, il est hautement improbable, statistiquement, il est hautement improbable qu'il tienne en l'état. Alors, il y a en France des abbayes qui se soutiennent et on parle de grandes communautés monastiques, là où, il y a 50 ans, il pouvait y en avoir deux ou trois fois plus. Donc, quand une communauté a 45 personnes avec quelques jeunes, c'est une communauté extrêmement vivante, extrêmement bon. Mais il y a aussi des petites communautés où il y a 7, 8, 10 moines qui eux-mêmes disent « nous savons que c'est la fin d'un monde, pour le coup ben. ». Et là, la question qui, moi, m'a passionnée, ça a été de me demander… Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette situation, au fond, où finalement les moines, à nouveau, ils incarnent, ils condensent. Ils condensent quoi? Ils condensent la précarité de la situation du christianisme dans la société telle qu'elle est. Dans une société post-chrétienne, post-séculière, oui, il y a une précarité. Alors, la particularité des moines, c'est qu'ils l'assument d'une façon explicite. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Alors, ce que j'ai vu massivement, je vais venir dans un instant sur la fameuse énigme des traditionalistes, mais il faut bien dire que c'est une minorité. Dans un grand nombre de cas et de lieux, où ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment, dans cette situation de précarité, se jouait quelque chose d'une nouvelle utopie. Et cette nouvelle utopie, je dirais pour faire bref, c'est celle d'un christianisme, beaucoup plus que catholicisme. Je dois dire que s'il y a un endroit où on ne parle pas beaucoup de l'Église, c'est bien les monastères. J'entends de l'institution ecclésiale. Ce qui domine, c'est la recherche d'une utopie que j'ai caractérisée comme écologique, liturgique et hospitalière. Écologique d'abord parce que, en effet, la reconfiguration de l'ascèse dans cette situation nouvelle rencontre de façon tout à fait intéressante des interrogations de la modernité sur elle-même. Et ce qui me frappe dans cette affaire, c'est comment l'altercation protestataire, qui est une dimension sur laquelle Jean Séguy a beaucoup insisté, qui est constitutif du monachisme à toutes les époques. Le monachisme, il est, comme disait Troeltsch, une secte ecclésifiée, et il est en situation protestataire à la fois à l'égard de la société, puisqu'on en sort, et à l'égard de l'Église, puisqu'on se met dans une situation qui n'est pas celle gérée ordinairement par l'institution. Cette dimension protestataire, aujourd'hui, elle trouve son... Alors, la protestation, elle était claire quand on est dans l'hypothèse de la reconquête, elle était très claire et elle était plus religieuse que sociale dans le deuxième temps qui était celui que j'appelle le monachisme œcuménique. Aujourd'hui, on voit se réactiver cette dimension d'altercation à l'égard du monde, mais qui se joue à partir des interrogations, non plus contre la modernité, mais à partir des interrogations de la modernité sur elle-même. La question écologique, à la fois, elle est reconfigurée par les changements de l'ascèse, qui a intégré la nécessité que chacun mange bien, dorme autant qu'il faut, etc. Mais aussi, elle est le lieu dans lequel les moines entendent dire quelque chose à cette aspiration écologique elle-même. Et donc, une série de lieux monastiques sont des lieux d'expérimentation très poussée de la possibilité, par exemple, d'une vie frugale, d'une vie frugale en communauté, tout ce que ça implique en matière de gestion du lien social et de réconciliation avec un environnement naturel, avec notamment des expériences d'autosuffisance, pas du tout destinées à se couper du monde, mais au contraire, à créer des liens avec le monde à travers ce type d'expérience. Ça ferait des monastères uniquement des lieux, mais il y a plein d'autres communautés qui tentent ça. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui, à ce moment-là, singularise une vocation monastique? Le côté sectereuse, qui pourrait très vite intervenir dans le premier cas de figure, c'est la formule de l'abbé d'Ancalcat qui m'a dit on n'est pas une secte heureuse. Et pourquoi le monastère n'est pas une secte heureuse? Parce que même si justement à Ancalcat l'expérimentation écologique est poussée très loin, eh bien c'est justement parce que le temps est liturgique. Et donc la question du temps, et j'en ai fait le titre du livre, la question du temps chez les moines est le lieu principal de l'utopie monastique aujourd'hui, dans un temps fragmenté, dans un temps linéaire, complètement explosé par la vitesse, dans un temps... La scansion liturgique est quelque chose de très fascinant à observer dans ce qu'elle implique dans la construction d'un rapport au monde, pour le coup, et d'une forme de vie. Il y a quelque chose qui est absolument fascinant quand on est dans un monastère, c'est que les gens sont au travail, ils sont dans des ateliers, ils font du fromage, ils font des émaux, ils font je ne sais pas quoi, ils ont tous du boulot. L'heure de l'office, tout s'arrête, c'est l'office, et puis après chacun repart. Cette espèce de scansion du temps, et pour ça il faut rester dans les monastères, pour le sentir soi-même. C'est pour ça que par exemple le chapitre sur la liturgie, ce n'était pas seulement un problème de technique, sophistiqué, parce que la liturgie c'est très compliqué en effet, et je me suis battue avec tout ça parce que j'y connaissais rien. J'apprenne. Mais c'était pas ça le plus difficile. Le plus difficile c'était d'arriver à éprouver quelque chose de cette expérience particulière du temps. Donc ça c'était bon. Mais là encore, ça pourrait être très intéressant, cette espèce d'alternative au temps du monde se jouant dans la combinaison savante entre le temps cyclique et le temps linéaire. Il y a là quelque chose qui est en soi très intéressant, mais on resterait dans une expérimentation en vase clos si cette utopie écologique et liturgique n'était pas explosée en quelque sorte par l'exigence de l'hospitalité. Et non pas seulement de l'hospitalité classique, c'est-à-dire l'hôte qui vient pour une retraite, il donne son nom, il paye son éco volontairement, il participe, fait la vaisselle à l'hôtellerie, etc. etc. Mais l'utopie, l'hospitalité inconditionnelle, celle qui permet d'entrer dans un monastère sans même donner son nom, avec tous les risques que ça comporte, et qui conduisent des communautés à prendre des risques considérables, avec des forces très faibles. Et bon, l'ouverture à des gens complètement désingués socialement, culturellement, économiquement bien sûr, mais psychiquement aussi, amène de temps en temps des situations très compliquées. Alors évidemment, il y a des monastères où on ne prend pas le risque. Hein, et l'hospitalité est bien régulée, c'est l'hospitalité de l'hôte qui dit son nom, il y a un contrat d'hospitalité, il y a certaines communautés qui prennent le risque. Bon, je dois dire... Oui, je termine là-dessus. Dans cette configuration des recompositions utopiques du présent, les traditionalistes correspondent aussi à quelque chose, je terminerai là-dessus, ils correspondent aussi à quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont exactement, ils sont exactement au croisement d'un triple phénomène. D'abord, il faut relativiser leur succès, hein. C'est pas parce qu'il y a sept novices à Fongombo que ça va sauver l'institution monastique. Mais par-dessus le marché, mais il y a des endroits où il n'y a aucun novice. Alors là, c'est quand même plus problématique. Mais surtout, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est la manière dont se combinaient dans ces monastères, au fond, les effets de la minorisation, les effets de la crise de la transmission culturelle du religieux et les effets de l'exotisation. C'est-à-dire que le succès de ces monastères est très largement lié à l'étrangeté considérable du modèle qu'ils portent. Et cette étrangeté considérable, elle est paradoxalement fonctionnelle avec un catholicisme ostensible très largement massivement peu adossé à une culture catholique de longue durée. On parlait de désidéologisation, qui effectivement se fixe sur un certain nombre de signes et de symboles. Alors, bien entendu, dans les monastères traditionnalistes, il y a le vivier des familles tradies dans lesquelles, au contraire, ça se transmet très bien. Enfin, bon, c'est quand même une petite cohorte. Et puis de l'autre côté, il y a l'attrait, extrêmement fragile d'ailleurs en termes de vocation, de ce double phénomène d'exotisation et de minorisation qui permet précisément de répondre très adéquatement à l'aspiration d'un christianisme ostensible qui est un christianisme de minorité qui veut s'afficher parmi les minorités. Voilà.
Un grand merci. Je suis au moins certain d'une chose, c'est que vous avez envie de lire le livre si vous ne l'avez pas fait. et qu'il y a sans doute des questions qui veulent être posées à Daniel Hervieux-Léger. Donc la parole est à vous.
Non. Non, j'ai. Oui. Je me suis donné ces barrières parce que moi, j'observe des faits sociaux, c'est-à-dire des individualités épatantes, d'une liberté incroyable, avec en plus une mémoire extraordinaire et qui me racontait des choses fantastiques. J'en ai rencontré. Le problème, c'est qu'il fallait que je saisisse une réalité collective. Et ça, c'était beaucoup plus compliqué. Moi, je fais du terrain. Ça, c'est la condition du travail sociologique, c'est le terrain. C'est-à-dire que j'ai énormément fréquenté les monastères pour cette enquête. J'ai passé des jours et des jours. J'ai assisté à des offices à en avoir le tournis. Mais il faut aller sur le terrain. Si je ne peux pas entrer pour diverses raisons que je vous ai dites, il valait mieux que je m'abstienne.
Oui, monsieur.
Un peu, oui. Mais pas plus que ça, oui. C'est un moment. Oui, ça l'a impacté de façon diverse. Ça l'a impacté de façon diverse. En un sens, la rupture de 14-18 est une rupture franco-française extrêmement nette, beaucoup plus claire. La guerre de 39-45, elle a d'abord eu un effet massif de montée des vocations, c'est-à-dire qu'après la guerre, il y a une très forte poussée de vocations monastiques, mais qui sont de nature très très diverse. En fait, l'après-guerre dans les monastères est très très compliquée parce que, bon, toutes sortes de clivages qui traversent l'Église de France à l'époque sont présents dans les monastères, probablement assez exacerbés par la vie en communauté. Mais je dirais que ce que la guerre a induit, la Seconde Guerre mondiale a induit de plus intéressant, c'est vraiment d'avoir contribuer à déclencher dans les monastères l'interrogation de la question qui revient tout le temps, que les moines répètent tout le temps, de quoi sommes-nous le signe? Et dans les conditions de l'après-guerre, après la Shoah, etc., la question de quoi sommes-nous le signe est devenue une question lancinante. Alors qu'auparavant, cette question de quoi sommes-nous le signe, elle est absorbée, je dirais, dans l'évidence de la double éthique. Et c'est plutôt comme ça. C'est plus diffus, plus et plus variable, parce que notamment vous avez des courants au sein du monastisme, on le sait, qui se sont trouvés très en affinité avec le régime de Vichy, avec la thématique de la famille, du travail, etc., etc., et qui ont vu leur communauté complètement clivée autour de ces questions. C'est souvent des histoires très douloureuses dont on parle.
D'autres questions? Oui, monsieur, oui, et puis ensuite.
Oui, ça c'est le discours, les moines peuvent en parler. À vrai dire, on ne m'a pas tellement parlé de la prière dans les monastères, on m'a parlé de la liturgie. On m'a parlé de la Lectio Divina, on m'a parlé de, voilà. La prière, c'est, alors, il y a deux choses. Je n'ai pas tellement interrogé cette dimension, pas plus que je n'ai interrogé, ça me fait penser à la question de la sexualité. S'agissant de l'enquête elle-même, j'ai toujours fait le choix, et je ne m'en repens pas, de ne pas entrer d'une façon intrusive dans l'intimité des gens. Les moines ont très souvent parlé des questions de sexualité. Mais je les ai jamais poussés dans leur retranchement sur ce terrain-là. En particulier, s'agissant de la sexualité, parce que précisément, ce n'est pas métaphorisable. C'est-à-dire que vous pouvez toujours métaphoriser votre rapport à l'obéissance, votre rapport à la pauvreté, etc. Il y a plein de discours spirituels qui se greffent là-dessus. Avec la sexualité, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne métaphorise pas du tout de la même façon. Et pour le coup, là, pas plus si j'avais travaillé chez les femmes que je n'aurais cherché systématiquement à les titiller sur le terrain de la maternité et du déficit de maternité. Je suis restée très prudente sur ce terrain-là. Parce que d'abord, j'ai vite réalisé dans les confidences qui m'ont été faites que je pouvais déclencher des choses comme sociologue, je ne pouvais absolument pas maîtriser. Bon. Et que je ne voulais pas me trouver dans un rôle qui n'était pas le mien. Et puis, et la prière, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, quand j'ai interrogé les moines sur la vie qui menait, je leur ai jamais, jamais posé de questions sur ni ce à quoi ils croyaient, ni leurs priorités spirituelles, ni leur vie de prière, ni leur intimité spirituelle. Je n'ai pas cherché à rentrer dans leur intimité spirituelle. Ce n'était pas le sujet. Moi, ce qui m'intéressait, et j'ai eu bien entendu des confidences sur ce terrain-là aussi, y compris notamment parce que beaucoup de moines m'ont parlé de la sécheresse spirituelle, enfin, la fameuse question de la cédille, etc., qui est revenue très souvent. J'ai eu des moines qui m'ont dit qu'ils étaient athées. Mais je n'ai pas cherché à faire une enquête là-dessus, ni à utiliser ces données à l'intérieur d'une restitution écrite quelconque. La vie de prière des moines, bien entendu, elle existe. Et qu'est-ce que j'aurais pu en dire? Qu'ils prient beaucoup, c'est vraisemblable. Qu'ils ne prient pas du tout, c'est également très vraisemblable. Donc je suis restée volontairement en deçà du questionnement. Par contre, ils m'ont beaucoup parlé de la liturgie. La liturgie en tant qu'elle fait le moine. Elle fait littéralement le moine. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment vivre des offices et des offices et des offices pour arriver à comprendre comment ça fait le moine. C'est pas évident. La liturgie, c'est pas une activité monastique. La liturgie, c'est la constitution monastique elle-même. Et ça, c'est... parce que c'est vraiment... c'est un rapport au temps dans lequel se coagulent toutes les dimensions du temps, le présent, le quotidien, l'eschatologique, tout ce que vous voulez. Mais la prière, finalement, non seulement je n'ai pas voulu rentrer pour les raisons que je viens de vous dire, mais en plus, ce n'était pas tellement intéressant pour le sujet.
Monsieur, oui.
Ça n'empêche pas. C'est-à-dire que t'es pas élu pour une période. Non, c'est pas un mandat. Non. Si. Ah, pas du tout. Depuis, il a toujours été élu par la communauté. Mais c'est pas un mandat électif. C'est pas un système de représentation. Il faut pas du tout transposer les institutions politiques. L'élection monastique, elle est en réalité intériorisée par les moines comme la manifestation carrément de la volonté divine dans le vote. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est élu, c'est pas l'opinion des moines qui a joué avec un rapport de force, plusieurs candidats et je ne sais quoi. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est tout simplement l'expression d'une volonté divine qui a permis l'élection, mais au sens de l'élu. Et ensuite, dans cette reconnaissance qui lui est donnée à travers le vote de ses frères, s'est exprimée la volonté divine, la construction de la figure de l'abbé comme monarque dans son abbaye est absolument... ça pose aucun problème. Et il n'y a aucune dimension démocratique dans l'élection monastique, il ne faut pas se tromper. Ça, c'est souvent une erreur qui est faite, on dit « oui, Zédis », mais non, c'est une fois l'élection faite, alors c'est très intéressant et très important, et ça n'est sans doute pas sans rapport, cette institution de l'élection monastique, avec nos institutions démocratiques en amont, mais ça n'est pas une élection de genre politique. Et par exemple, il n'y a pas de candidat, en principe.
En principe,
parce qu'évidemment, les choses sont quand même... On aide énormément l'Esprit-Saint.
Il n'y a pas que les jésuites, donc. Donc, si, oui.
Alors, oui. Oui, mais jusqu'à un certain point. Parce que, par exemple, dans le premier modèle que j'ai évoqué, le nœud du chapitre, c'est le commentaire de la règle. C'est toujours vrai, hein. Mais il y a façon et façon de commenter, de faire le commentaire de la règle. Mais le commentaire de la règle, c'est la manière dont l'autorité dit comment doit être vécue la règle. C'est pas du tout. Enfin, la dimension délibérative, elle est d'abord assez diverse selon les communautés. Elle n'est pas instituée en tant que telle, la dimension délibérative. Même si dans le chapitre, les compétences sont supposées pouvoir s'exprimer, etc., etc. Et même les avis, si l'abbé le demande. Mais on n'est pas dans une société délibérative non plus. Alors, bien entendu, les choses ont énormément bougé entre le modèle de l'Assemblée. Au contraire, vous avez maintenant, dans des abbayes, une pratique de la délibération qui ferait rêver les habermassiens de tout poil. C'est-à-dire, c'est vraiment... c'est très sophistiqué. C'est-à-dire que vraiment, on engage le travail de délibération avec des renvois à des petits groupes, etc., des décanies éventuellement, etc. C'est une institution de la délibération très sophistiquée et qui est aujourd'hui pensée par un certain nombre de communautés comme la manière de réinterpréter le sens de l'institution monastique elle-même. Mais ce n'est pas vrai partout. Croyez-moi, la trappe de ces fonds ou fonds Gombeau ne sont pas des sociétés délibératives.
Peut-être une dernière question.
Alors, s'il n'y avait que ce face-à-face, ce serait encore relativement simple. Mais il faut savoir aussi que les hôtelleries sont largement fréquentées par des gens qui sont des gens en quête spirituelle à des niveaux très divers, qui ont quelquefois pas la moindre idée de ce que c'est qu'un monastère, de ce que c'est que le christianisme, de ce que c'est, alors a fortiori le catholicisme romain. Bon, bref, tout ça est quand même une gestion qui demande un doigté incroyable et qui est extrêmement difficile, et avec des échecs, avec des loupés. Ce qui m'a quand même vraiment intéressé, c'est qu'un certain nombre de monastères sont portés, au fond, à faire leur cœur de métier, c'est-à-dire de l'accompagnement spirituel de retraitants, de gens qui viennent avec leur aumônier pour des retraites, de préparation au mariage, etc. J'ai toujours trouvé ça très... Non, bon, bref. Bref, ils font de l'accompagnement spirituel classiquement. Et puis, de l'autre côté... Vous avez quand même un certain nombre de communautés qui, aujourd'hui, pensent, raisonnent la question de l'hospitalité comme hospitalité inconditionnelle, en allant très loin dans l'accueil. Ceci dit, un peu partout, même dans des communautés, je dirais, des monastères où l'accueil est plus classique, où on privilégie plutôt les... Bon, je n'ai vu aucun endroit où quelqu'un qui dirait « je n'ai nulle part pour aller ce soir, j'ai besoin de manger, de me coucher », Je ne connais aucun endroit où on lui refuserait l'entrée du monastère, de l'hôtellerie. Dans certaines communautés, ça va beaucoup plus loin. Y compris en ce moment, avec les problématiques d'accueil des réfugiés, etc. Bon, moi j'étais à Ligugé au début de la semaine, justement, parce que les moines, eux, autour du livre qu'ils avaient lu au réfectoire, in extenso, j'ai trouvé ça admirable. Eh bien, j'étais à l'hôtellerie avec un couple de réfugiés ukrainiens et un couple de réfugiés syriens. Donc, il y a vraiment... bon. Et puis, il y a des communautés dans lesquelles le choix de l'hospitalité inconditionnelle est complètement raisonné. Je pense, par exemple, aux communautés dans lesquelles les services sociaux débordés et ne sachant plus quoi faire envoient les femmes battues avec enfants, etc., aux moines qui s'en débrouillent. Alors, qui doivent du même coup faire un travail d'accompagnement social ou aider les gens à faire les papiers, aider à et puis essayer de les sortir de là. Ils ne vont pas vivre à l'abbaye. Et par exemple, j'ai repéré un ou deux cas de gens qui sont arrivés comme ça, SDF, complètement en loc, et qui, vraiment psychiquement, et qui ont fini par trouver une place, voilà, de familier autour de l'abbaye. Et dans certains cas, eh bien, comme à la frappe de Port du Salut, eh bien, un jour, voilà, deux groupes d'hôtes se sont tapés dessus, en tout cas, c'est... Bien que la municipalité s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ces 7 ou 8 trappistes âgés seuls face à ce genre de situation. Moyennant quoi, la population s'est mobilisée, le monastère est devenu un dispositif de solidarité locale absolument surprenant. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient l'air complètement voués à disparaître, et aujourd'hui, c'est le village entier, au point que les gens du village font un tour de rôle pour que deux personnes, matin et soir, passent voir si tout va bien. Et ils ouvrent les bâtiments, alors, avec des paradoxes incroyables, parce que ils sont généralement dans des bâtiments trois fois trop grands pour eux, sauf que les bâtiments ne sont pas aux normes. Donc pour pouvoir accueillir, il faut qu'ils construisent d'autres bâtiments ou qu'ils rénovent à grands frais des hôtelleries, alors qu'ils flottent par ailleurs dans des bâtiments gigantesques. Ça donne lieu à des... Alors, bon, il y a un terrain sur lequel je ne me suis pas aventurée, et effectivement, ça mériterait d'être étudié de près, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire comment tout ça tient économiquement. C'est le monachisme est une grosse machine à dons, quand même. Il n'y a pas de doute que, voilà, toutes les abbayes, toutes les communautés ont des ressources en termes de dons. Il y a du mécénat privé. Il y a du mécénat privé. Il y a à tel endroit, on vous dit... je ne sais pas quoi, telle très grande entreprise qui a payé pour reconstruire telle ou telle chose. Donc il y a des circuits financiers, mais ça c'était une enquête c'était trop difficile à faire.
Merci beaucoup. Je crois qu'on entend comment l'hospitalité, y compris inconditionnelle et surtout inconditionnelle, est à la fois une mise à l'épreuve, mais aussi la possibilité d'une relance de l'utopie monastique.
Mais quelquefois, le risque est tellement grand que ça finit comme à Tibérine. C'est pour ça que l'épilogue du livre est quand même Tibérine.
En tout cas, un grand merci à Céline Béraud, Jean-Luc Poutier et bien entendu à Daniel Hervieux-Léger de cette présentation et de cette discussion de ce livre passionnant, Le Temps des Moines. Bonne soirée et merci à vous.
Les établissements religieux, enfin les moines, qui sont en général...